Mais je vais me le permettre. J'annonce d'avance que c'est un sophisme, donc vous voyez, je suis gentil, vous n'avez même pas besoin de me le dire, je le sais. Mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'après cette période relativiste, on arrive dans un deuxième temps à d'autres affirmations qui le sont beaucoup moins. Par exemple, si je suis une femme dans un corps d'homme, alors je suis une femme. Et tu n'as pas le droit de me dire, ni même de penser, que je suis un homme. Jésus, Bouddha et Mahomet, ce n'est pas équivalent. Cette prétention à la vérité absolue, elle doit être abandonnée pour passer à un plan supérieur de ton existence. Penser que tu as tort et que j'ai raison, ce n'est pas simplement faire preuve de fermeture d'esprit, ça devient une offense intolérable, parce que s'il n'y a pas de vérité absolue, alors si tu rejettes ma vérité, c'est qu'en fait tu me rejettes moi. Je ne sais pas si ça vous parle tout ça, si ce sont des choses que vous avez déjà entendues autour de vous. En tout cas, la suite de notre épître aux Colossiens, qu'on a commencé à étudier la dernière fois que j'ai prêché, va nous aider à remettre l'Église au milieu du village de nos propres vies, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que Paul n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc je vais prier, puis on va ouvrir nos Bibles en Colossiens 1, on lira les versets 15 à 23, et j'ai invité Coralie à venir lire ce texte. Je ne sais pas si elle est là. Est-ce qu'elle est là, Coralie ? Elle est là. Tu es prête ? Oui ? Super, très bien. Je vais prier et puis tu pourras lire ensuite le texte. Seigneur, à nouveau, nous voulons te remercier pour ta parole. C'est vrai, nous avons chanté « Mon encre et ma voile », Seigneur, et ta parole est une chose et l'autre. Elle est une encre parce qu'elle nous permet... Elle nous permet d'être solides sur nos deux pieds, dans nos convictions. Elle nous permet de ne pas être ballottés à tout vent de doctrine, à tout vent de pensées qui sont contraires à ta parole et qui nous mènent à la perdition, Seigneur. Et puis, elle est aussi une voile parce qu'elle nous guide, parce qu'elle nous montre la direction à suivre, parce que toi, tu souffles dans cette voile et que c'est toi qui nous fais avancer. Seigneur, que cette parole que nous allons lire maintenant soit exactement ça, une encre et une voile pour nos vies. Amen. Je te laisse venir. Tu as le texte là ? Oui.
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps, qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Et par lui de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Quant à vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, dans votre façon de penser et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort, dans son corps de chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si vraiment vous demeurez dans la foi, fondée et fermement établie, sans vous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle que vous avez entendue, qui a été proclamée à toute création sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu ministre.
Merci. Alors, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Pour moi, c'est un peu plus simple parce que j'ai planché sur le texte, donc je n'ai pas de mérite. J'ai passé du temps dessus. Mais il me semble que ce qu'on entend, même à première lecture, c'est que Paul, ici, exalte le Christ d'une manière qui dépasse très largement ce qu'on peut dire d'un brave type un peu plus avancé que nous sur son chemin d'évolution spirituelle. Paul, dans ce texte, ne parle pas de Jésus comme d'un modèle à suivre parce qu'il a eu une vie inspirante. Ce qu'il dit va bien au-delà.
Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Et on va commencer par s'attarder sur ce mot, image. Il est l'image du Dieu invisible. Alors c'est amusant parce que je parlais en introduction de la doctrine ésotérique qui consiste à dire que le monde matériel émane du divin, et donc dans cette conception que le divin se trouve dans le monde matériel. C'est ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle le panthéisme, de pan c'est tout, théisme de théos c'est Dieu, c'est-à-dire Dieu est partout, il est dans les arbres, il est dans les feuilles, il est dans le soleil, il est dans la mer, il est dans les éléments, il se confond avec sa création. Cette doctrine qui consiste à croire que le monde matériel émane du divin est dite émanatiste ou émanationniste quand c'est mal traduit de l'anglais. Et si je vous donne le terme, c'est juste parce que ça s'oppose à un autre terme que vous connaissez sans doute mieux, qui est la doctrine dite créationniste. Et la doctrine créationniste, elle affirme que le monde matériel a été créé par Dieu et qu'il ne se confond d'aucune manière avec lui. Nous avons été créés par Dieu, nous ne sommes pas Dieu, nous sommes ses créatures. L'arbre n'est pas divin, le soleil n'est pas divin, la mer n'est pas divine, il y a Dieu et puis il y a la création. Et ce sont deux choses, pour le dire comme ça, c'est pas très beau, mais qui sont tout à fait séparées. Dans l'Ancien Testament, quand nous lisons dans le livre de la Genèse que l'être humain a été créé à image de Dieu, en Genèse 1, 26, on peut comprendre qu'il en est de lui, de l'homme, je veux dire, hein, comme d'un reflet de Dieu, en quelque sorte. Il n'est pas Dieu, mais il reflète quelque chose de Dieu, de la même manière que l'image me renvoie le miroir dans la salle de... que le miroir me renvoie dans la salle de bain, eh bien, voilà, ça me ressemble, mais ce n'est pas moi, c'est une image. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le deuxième mot dans la Genèse, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, pour donner juste un exemple de à quoi ça peut ressembler ça, justement, l'être humain n'est pas le créateur, mais il est quand même créatif. Et à ce titre, effectivement, il est un reflet du Dieu créateur, il dit quelque chose du Dieu créateur. Mais ici, dans notre texte, le terme image a un autre sens. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le Nouveau Testament, et que le Nouveau Testament, c'est le fruit de la rencontre entre le monde juif et le monde grec. Le Nouveau Testament, il a été écrit en grec, pas en hébreu. Or, dans la pensée grecque, l'image, qui se dit « eikon » en grec, et pourquoi je vous le dis ? Parce que ça a donné « icône » en français, je trouve intéressant. L'image participe à la nature de l'objet qu'elle représente. C'est-à-dire que là, oui, l'image est une émanation de ce qu'elle représente. Pour le dire autrement, Jésus est Dieu incarné sur la terre. Il participe à la nature divine. Le deuxième texte compliqué, je dirais, de ce passage, c'est l'expression « premier-né de toute création ». Parce que là encore, une lecture rapide pourrait nous faire penser, du coup, que Jésus est le premier être créé. Voilà. Et si c'est le cas, alors il n'est pas de nature divine, il est une créature, exactement au même titre que vous et moi. Cette idée, elle a été défendue par un théologien du IVe siècle qui s'appelle Arius, et cette idée, en fait, a été condamnée comme hérétique par l'Église. Aujourd'hui, on retrouve cette idée néanmoins chez les témoins de Jéhovah, par exemple, et même dans les courants, je dirais, les plus radicaux du protestantisme libéral, chez ceux qu'on appelle les unitariens. On en a quelques spécimens en France, et voilà, je vais vous en donner deux que je connais, en tout cas. Il y a par exemple le temple de l'Oratoire du Louvre, à Paris, ou encore l'Église protestante unie de Montpellier. Tout ça pour dire que ça n'est pas parce qu'une communauté est estampillée Église, ni même Église protestante, que nécessairement nous avons la même foi. Souvent, on est évidemment sur des points de détail, des sensibilités différentes, mais ici, ce n'est pas le cas du tout. Cette question de la divinité du Christ, elle est centrale, parce que c'est le salut qui est en jeu sur cette question. Et ça, on va le voir ensuite. Pour l'instant, ce qu'on peut noter, c'est ceci. Dans le monde biblique, le premier-né, c'est celui qui dispose du droit d'aînesse. C'est ça que ça veut dire, premier-né. c'est celui qui dispose du droit d'aînesse. C'est celui qui hérite de tout ce que le père lui confie. Alors, j'allais dire évidemment, je ne sais pas si c'est évident, mais effectivement, il se trouve que souvent, c'est le premier enfant de la fratrie, c'est vrai. Et pour tout dire, c'est même le premier garçon de la fratrie. Bon, c'est comme ça. Mais pas toujours, loin de là. Et le meilleur exemple qu'on a de ça, c'est le roi David lui-même. Le roi David, rappelons-le, c'est, sa vie entière est une annonce du Christ à venir. Il est le roi messianique par excellence. Il est ce qu'on appelle en théologie un type du Christ, c'est-à-dire comme une empreinte du Messie qui devait venir. Voilà. À travers sa vie, on voit beaucoup de choses, en fait, du Messie qui devait venir. Et qu'est-ce qu'on nous dit du roi David ? Au psaume 89, on nous dit ceci, « J'ai trouvé David, mon serviteur, je lui ai conféré l'onction de mon huile sacrée. » Ça, c'est le verset 21. Et je vais un peu plus loin, verset 27, qui dit, « Lui, il m'invoquera en disant, « Tu es mon Père, mon Dieu, le rocher de mon salut. » Et moi, dit le verset 28, « Je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Donc là, c'est très clair, il s'agit d'une primauté de rang, pas d'une priorité temporelle, parce que, tout simplement, David n'était pas le fils aîné, c'était le fils cadet, c'est le dernier de sa fratrie. Il en est du même, du reste, de Jacob, qui s'est retrouvé avec le droit d'aînesse alors que lui aussi était le cadet. Il en est de même encore de Joseph, par exemple, qui était le 11e de sa fratrie et qui a reçu, nous dit la Bible, double portion d'héritage à la place de son frère Ruben. Pourquoi ? Eh bien, je le répète, parce que dans la pensée biblique, la notion de premier-né ne signale pas une priorité temporelle, mais une primauté de rang. On parle, voilà, du rang. Donc, ce que ce texte nous dit, c'est que Jésus dispose de la prééminence sur toute chose. Les versets suivants précisent d'ailleurs pourquoi. Il nous est dit au verset 17, « Car c'est en lui que tout a été créé. Il est l'aîné de la création, au sens où il est celui qui l'a fait naître, il est celui qui la maintient. C'est en lui que tout se tient. » Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est très important. C'est très important parce que si Jésus n'est qu'un homme, alors on doit en déduire qu'il est pécheur. La Bible l'affirme comme ça, tous les hommes sont pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, c'est Romains 3, verset 10 qui le dit. Jésus lui-même l'affirme quand il dit « personne n'est bon, sinon Dieu seul ». Ça, c'est en Luc 18, verset 19. Or, si Jésus est pécheur, ben, on a plusieurs problèmes. Le premier, c'est que la Bible est menteuse, puisqu'elle nous affirme qu'il est sans péché. C'est 2 Corinthiens 5, 21, Hébreux 4, 15, bref, il y a plusieurs passages comme ça. Mais surtout, si Jésus est pécheur, alors il ne peut pas mourir pour nos péchés, parce qu'il doit mourir pour les siens. Et si Jésus ne meurt pas pour nos péchés, alors il n'y a pas de salut possible. Nous restons, nous, sous la condamnation de Dieu. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu derrière cette idée, qui est affirmée par la Bible, je crois, de multiples manières, que Jésus est Dieu incarné sur la terre. Et au-delà de l'aspect purement théologique, ce qu'on peut également retenir, c'est que dans un monde où nous pouvons tout à fait légitimement nous sentir perdus au milieu du relativisme ambiant, de la confusion générale que ce relativisme génère, voire même de l'inversion totale des valeurs et de la vérité, avec des gens qui affirment « bon ce qui est mauvais et mauvais ce qui est bon », eh bien, il y a pour nous un point d'ancrage solide. Jésus-Christ, nous dit ce passage, est la source de toute vérité et de tout ordre. Tout ce qui existe a été créé par lui et pour lui, et c'est lui qui donne un sens à l'univers. Et en conséquence, de la même façon qu'il a mis de l'ordre par sa parole dans le chaos originel, au moment de la création du monde, c'est aussi lui qui met de l'ordre par sa parole dans le chaos de nos propres vies. Et pour ça, il œuvre de façon tout à fait concrète. Le verset 18 nous dit « Il est la tête du corps qui est l'Église ». Et on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on passe de la place de Jésus dans la création à la place de Jésus dans l'Église ? Eh bien, parce que, en tout cas c'est une des réponses possibles, par l'Église est inaugurée la nouvelle création. par l'Église est inaugurée la nouvelle création. Nous sommes dans l'attente du royaume à venir. Un royaume dont le roi, nous dit Ésaïe 11, jugera les pauvres avec justice, arbitrera avec droiture en faveur des affligés. Un royaume où, je cite à nouveau Ésaïe, les versets 6 à 9, j'aime beaucoup ce passage, je l'ai déjà cité parce que j'aime beaucoup ce passage, le loup séjournera avec le mouton, la panthère se couchera avec le chevreau, le taurillon, le jeune lion, les bêtes grasses seront ensemble et un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits une même couche. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère et l'enfant sevré mettra sa main dans le trou du serpent. Il ne se fera aucun mal, il n'y aura aucune destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira la terre comme les eaux recouvrent la mer. Autrement dit, nous sommes dans l'attente de la grande réconciliation générale qui aura lieu en Christ de toute la création, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, nous dit le verset 20. Comment ? Nous dit toujours le verset 20, en faisant la paix par le Christ, par le sang de la croix. Bien sûr, le salut concerne les êtres humains, parce que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est que nous sommes des êtres spirituels. Les animaux ont une volonté, ils ont des émotions, ils ont une intelligence, mais Dieu a mis en l'homme son souffle, son esprit. Nous sommes des êtres spirituels capables d'être en relation avec Dieu. Et donc la question du péché nous concerne évidemment en premier lieu. C'est nous qui avons besoin de réconciliation avec le Créateur. C'est par nous que le péché est entré dans le monde. Mais les conséquences de cette réconciliation sont littéralement cosmiques pour la Bible. La création tout entière attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, nous dit Romains 8, verset 19. C'est la création tout entière qui est affectée par le péché des hommes. Elle gémit les douleurs de l'enfantement, dit Paul en Romains 8, 22. Et cette même création, dit encore Paul, sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. C'est en Romains 8, 21. Ça, c'est l'étendue de la mission à laquelle nous sommes appelés à prendre part. Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Nous sommes ambassadeurs pour le Christ en vue de cette réconciliation générale. C'est là notre boulot. Alors, si dans le chaos ambiant, vous cherchez un sens à votre vie, une mission de vie, ben en voilà une. Vous pouvez devenir ambassadeur du royaume de Dieu. Et de fait, si vous avez placé votre foi en Christ, c'est même pas que vous pouvez le devenir, c'est que ça, c'est une parole qui est posée sur vous. Vous êtes ambassadeur du royaume de Dieu. Il nous reste simplement à l'assumer pleinement. Ça, c'est notre mission, parce que nous sommes nous-mêmes réconciliés avec Dieu, et que ce que nous avons reçu gratuitement, nous sommes appelés à l'offrir gratuitement à notre tour. Ce qui nous amène à Christ et nous. Alors, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, d'une part parce que je crois qu'on a vu déjà pas mal de choses pour aujourd'hui, et d'autre part parce que le texte me paraît assez limpide quand on le lit. Je vous le résume, en gros, Jésus nous dit ce texte, nous a réconciliés avec Dieu par sa mort à la croix, si du moins nous demeurons dans la foi, fondés et fermement établis, nous dit le verset 23. Et c'est là-dessus que je vais insister. C'est important, cette notion de fondés et fermement établis. Parce que c'est ça, en fait, qui nous permet de ne pas nous laisser emporter loin de l'espérance de la bonne nouvelle. Ça, c'est le verset 23 qui nous le dit. Par la foi que nous déposons en lui, Jésus nous rend libres. Jésus nous rend libres. Mais il ne faut pas confondre liberté et manque de cadre, liberté et relativisme. Parfois, on confond un peu. La foi chrétienne nous rend libres, absolument libres. Tu peux manger du fruit de tous les arbres du jardin. C'est ce qu'on lit dans la Genèse. Ça, c'est une grande liberté. Mais elle ne manque pas de cadre non plus, sauf de celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La Bible nous rend libres, la parole de Dieu nous rend libres, mais elle pose aussi des limites claires. Elle pose des limites dans notre vie spirituelle, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Elle pose des limites dans nos relations, tu ne te mettras pas sous un joug étranger. Elle pose des limites dans notre travail. Tu respecteras le jour du sabbat. Et si elle pose ses limites, si elle pose un cadre, ce n'est pas pour restreindre notre liberté, c'est d'une part parce que c'est bon pour nous, et d'autre part parce que c'est le cadre qui permet de vivre réellement libre. Vous savez ce qu'on observe dans les familles où les enfants manquent de cadre ? Alors, pas systématiquement, bien évidemment, mais je trouve que c'est quand même suffisamment observable pour que ça mérite d'être signalé. Ce qu'on observe, ou si je dois être plus honnête, je dirais ce que j'observe, parce que voilà, j'ai pas fait une étude sociologique sur le sujet, mais ce que j'observe, c'est qu'en grandissant, certains d'entre eux se perdent. Ça, c'était mon cas à moi. Ils ne savent pas distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais pour eux, parce que simplement, on ne le leur a jamais dit clairement. D'autres deviennent des petits tyrans pour leur entourage, parce qu'ils n'ont pas de limites, et notamment pas de limites à leur frustration, parce qu'on a tout fait dans leur vie pour leur éviter la frustration, et donc ils n'ont jamais appris à la gérer. Et finalement, il y en a d'autres, et ceux-là sont peut-être ceux qui me préoccupent le plus, qui, une fois adultes, recherchent, consciemment ou non, le cadre qu'ils n'ont pas eu, et qui vont être la cible privilégiée des systèmes religieux ou politiques rigoristes. En politique, ils seront sensibles au discours autoritaire, qui pose un cadre, donc, et en religion, ils seront sensibles au légalisme, qui pose un autre cadre. Depuis que je suis à Chambéry, et c'est aussi un peu pour ça que j'en parle, j'ai vu déjà plusieurs jeunes issus de milieux instables, socialement compliqués, où effectivement, probablement, ça manquait un peu de cadre, un peu de repère, être approchés par l'islam et être séduits par lui. Pourquoi ? Parce que pour le coup, c'est vrai, l'islam offre un cadre bien clair. Mais c'est un cadre qui passe complètement à côté du salut par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Et au lieu de les faire entrer dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu, ce cadre-là les enferme dans le carcan d'un légalisme qui est, on le sait, nous, impossible à satisfaire. Le cadre saint pour nos vies, celui qui nous amène à la vraie liberté, c'est Dieu qui nous le donne dans la parole qu'il a inspirée, la Bible. Alors, le bourgeois gentilhomme, c'est un truc de vieux, on l'étudie encore au collège. Molière, tout ça, si ? Vous l'avez lu ? Non ? Oui ? Si, quand même, un peu ? Non, je m'en suis préoccupé parce que je me suis dit, si ça se trouve, il y en a qui ont passé toute la prédication à se demander qui était ce monsieur Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Et ça, en homilétique, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. Vous voyez, c'est vous lancez un truc au début, les gens y pensent tout le long. Monsieur Jourdain, donc, apprend auprès de son maître de philosophie que lorsqu'il parle, il fait de la prose. Il apprend ça et il dit, par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Combien de convictions en France ont l'ésotérisme pour terreau sans que ceux qui les portent n'en sachent rien ? Nous vivons dans une société qui, et c'est un privilège, a des racines judéo-chrétiennes. On se plaît à le dire, pendant que d'autres se plaisent à rappeler qu'avant le christianisme, il y avait d'autres racines. Et effectivement, je crois qu'on peut constater que le paganisme qui a précédé le christianisme n'est pas mort, loin s'en faut. Nous voyons régulièrement ressurgir de jeunes pousses, tapies et endormies durant des siècles, qui, en quelques mois, tels de mauvaises herbes, réinvestissent l'espace laissé vacant par un Christ qu'on a congédié et relégué au rang de vieillerie désuète. Et je vous dirais qu'on n'a pas à craindre ça. On n'a pas à craindre ça parce que Jésus, en tout cas, n'est pas en danger, lui. On l'a vu, je crois, ça a bien été dit dans notre texte, Jésus, il règne. C'est en lui et par lui que tout a été créé. Il est avant tout, c'est en lui que tout se tient. Donc vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Si on a à craindre quelque chose, ça n'est pas pour lui, évidemment, ça n'est pas pour le monde même, je dirais, qui est dans sa main, c'est pour nous. Nous avons, nous, à être bien attentifs à ce que ces jeunes pousses ne viennent pas envahir le jardin de notre propre vie intérieure. Alors pour conclure, et pour le plaisir de le faire aussi, j'avoue, je vais faire l'exact inverse de M. Jourdain, plutôt que de faire de la prose sans le savoir, je vais faire de la poésie en le sachant. Voici. lorsque vrai devient faux, lorsque faux devient vrai, lorsque la confusion tient lieu de vérité, et que tes certitudes partent ainsi de guingois, centre-toi sur Jésus, sa parole te tient droit. Je vais prier. Seigneur, oui, ce monde est un monde matériel, physique, mais nous savons, nous en particulier, qu'il est aussi un monde qui a une dimension spirituelle. Que les gens en aient conscience ou non, il y a aussi des lois spirituelles qui régissent ce monde, et puis il y a d'autres lois qui combattent ces lois que toi tu as établies pour que le monde tourne bien, fonctionne bien, pour que le monde soit en relation avec toi, dans une relation saine qui amène à la vie. Il y a une autre loi qui est la loi du péché et qui elle aussi a une dimension spirituelle, une loi sous la coupe de laquelle se trouvent beaucoup de gens, y compris des gens qui n'en ont pas conscience, y compris des gens qui se disent athées, de gens qui pensent que leurs idées viennent de leur propre réflexion, alors qu'elles proviennent de ce qui a été insufflé au milieu de nous par l'ennemi, tout simplement. Seigneur, donne-nous de pouvoir voir, reconnaître ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, on n'a pas besoin d'être spécialiste du monde des ténèbres, on a besoin d'être spécialiste de ta parole, de qui tu es, de te connaître toi intimement. Parce que quand on te connaît toi intimement, Seigneur, on flaire, on hume directement ce qui ne provient pas de toi. On ne sait peut-être pas d'où ça vient, mais on sait que ça ne vient pas de toi. Seigneur, on a vraiment besoin de ça, et on sait que pour ça, on a besoin d'être fermement ancré en toi. Seigneur, on est serein parce que tu règnes au-dessus de tout. On est serein parce que ton Esprit Saint vit en nous, et que ton Esprit Saint, c'est Jésus qui vit en nous par l'Esprit. Et Jésus tient le monde dans sa main. Il tient le monde dans sa main. Ton Esprit Saint, Seigneur, nous enseigne. Nous savons qu'il le fait sur la base de ta parole. C'est lui qui nous rappelle au temps opportun ce qu'on a besoin de se rappeler. C'est lui qui, à travers nos échanges les uns avec les autres, vient parler à notre cœur. C'est lui qui vient nous parler pendant le culte par une parole, un passage de la prédication, la prière d'un frère, un chant, une discussion après le culte, pendant le café. Seigneur, on a besoin d'être ancré en toi. On n'a pas d'autre Dieu que toi. On veut réaffirmer aujourd'hui qu'on n'a pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, que ça soit une réalité dans nos vies. Et s'il y a d'autres dieux que toi dans nos vies, des fausses divinités, Seigneur, montre-les-nous. Fais-les remonter à la surface de notre conscience pour qu'on puisse se repentir et revenir à toi pleinement, parce que tu es celui qui a les paroles de la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Seigneur, nous te demandons pardon pour notre perméabilité aux doctrines qui sont là autour de nous, parfois sans même que nous en ayons conscience, qui peuvent être très séduisantes parce qu'elles paraissent bonnes, pleines de bonne volonté, positives, Seigneur. Nous savons aussi que l'ennemi se déguise en ange de lumière, qu'il te copie, mais qu'il te retire de l'équation, Seigneur. Nous ne voulons pas te retirer de l'équation. Nous savons que notre salut se trouve en toi. Au nom de Jésus. Amen.